Ainsi se referme ce journal des actualités à retrouver quand vous le souhaitez, notamment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.
Radio G.
Rendez-vous les 27, 28 et 29 juin
pour le festival Thomas Ranch à 20 minutes d'Angers. Un programme dépaysant aux allures de western. Profitez de 3 jours de concert, essayez-vous à l'équitation western ou grimpez à bord de bolides 100% US. Poussez les portes du ranch et venez vivre le rêve américain
les 27, 28 et 29 juin
à Contigny. Plus d'infos sur thomas-ranch-festival.net.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais est-ce que ce nouveau générique qui a inauguré la saison 24-25 vous plaît ou pas? Voilà une question que je vais vous poser, tiens, sur les réseaux sociaux de la radio, puisque avant on était sur une ancienne identité sonore. Pour celles et ceux qui l'ont découvert en cours de saison, qu'en penses-tu, Maxence? Ça donne l'ambiance?
Bah oui, tout de suite, ça nous met dans le bain, ça coupe bien avec la musique. On est prêt à démarrer l'émission.
Jade, ça va? Ça fait Jones?
Oui, c'est très bien.
Bon, bah super, c'est validé en tout cas par deux membres de l'équipe, même si ils sont là que jusqu'à la fin de semaine, puisque vous le savez, Topette s'arrête à partir du jeudi 26 juin pour la saison 24-25. Rassurez-vous, si en tout cas vous êtes rassurés, on repart pour une nouvelle saison à partir de septembre 25 et 26. Topette, qui, on vous le rappelle, reçoit des invités, bien évidemment, tout au long de la semaine. Nous étions avec la ville d'Angers hier. Cécile et Aurélien nous ont parlé de Temporive. Demain, nous sommes avec le Prévstival. Mathieu répondra à nos questions. Il est directeur de l'association Let's Game et Suzanne normalement sera de retour avec nous. Et après c'est bon, c'est fini, elle s'en ira. Jeudi on sera avec Jean-Jacques Garnier, le directeur des théâtres municipaux d'Angers, pour parler de la saison là aussi 25-26 avec quelques nouveautés. Et puis voilà, au cours de l'émission on aura aussi la chronique de Jade. Jade, on parle de quoi tout à l'heure avec toi?
De trois artistes angevins.
Ah, ça c'est intéressant, c'est local, c'est de la musique, ça nous plaît bien évidemment. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Je parlais de Jean-Jacques Garnier, le directeur des théâtres municipaux d'Angers, qui sera donc avec nous jeudi pour nous parler de la saison 25-26. Il était accompagné de Nicolas Dufetel la semaine dernière, adjoint au maire, à la culture et au patrimoine, pour la présentation de saison justement des thèmes 25-26. On écoute Nicolas Dufetel nous en parler. Avec cette présentation de saison thèmes 2025-2026, Angers prouve encore une fois que la culture, défendre la culture, c'est plus l'apanage des villes de gauche, par exemple. On soutient la culture énormément à Angers, encore une fois. C'est prouvé avec la même des compagnies locales et puis une programmation riche et variée, accessible et populaire, monsieur Dufetel. Ah, Nicolas, on a perdu Nicolas en cours de route, c'est pas grave, on va essayer de le retrouver tout à l'heure. On vous rappelle aussi qu'il y a le Thomas Ranch, le festival Thomas Ranch. Ranch, voilà, ça c'est à la Jade, c'est Jade qui prononce ça comme ça. Les 27, 28 et 29 juin, c'est ce week-end à Contigny au Thomas Ranch. C'est dans le Maine-et-Loire, l'Amérique, qui s'invite en Anjou avec des bolides de la dance country, des bolides moto et voiture aussi. Et puis on l'a dit, il y a la police aussi qui sera là, la police US, et nos invités eux sont déjà là, donc on va les accueillir tout de suite.
L'invité de Topette sur Radio G.
Alors comme Maxence a signé pour faire son stage ici à Radio G dans l'émission Topette, il a découvert beaucoup de choses sur l'animation locale, culturelle, et il s'attendait certainement pas à tendre son micro ce soir à Martine et à Dominique. Maxence, je te laisse annoncer notre sujet.
Bah, très beau lancement, merci Pierre-Benoît. Aujourd'hui, on accueille Martine. Bonjour Martine.
Bonjour.
Martine Perrault, qui est présidente de Natanjou.
Tout à fait.
Et on a aussi à tes côtés donc Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Dominique Bloiret, c'est ça?
Bléré,
excusez-moi. Président de région et secrétaire principal de la Fédération française de naturisme.
On dit secrétaire général, mais c'est pas grave.
Secrétaire général. Donc déjà, Dominique, tu disais avant l'antenne... Tu es toi aussi passé par l'association de Natanjou.
Ah oui, il y a pas mal d'années maintenant. Et j'ai même été 5 ans président, et puis un peu vice-président, et puis maintenant je suis au conseil d'administration. Voilà, je continue tout le temps inattendu quand même.
Eh ben, si on commence tout de suite à parler dans du vif du sujet, Martine, si on présente le naturisme, comment on le présenterait simplement et efficacement ?
Simplement, efficacement, brièvement, c'est d'abord être soi, c'est vivre en harmonie avec la nature, bien évidemment, et c'est se mettre nu et profiter justement du fait de ne pas avoir de vêtements et d'être en direct avec essentiellement la nature.
Et pour ceux qui connaissent pas, enfin, même en présentant en anticipant l'émission, en la préparant, on se posait la question, quelle est la différence entre le naturisme et le nudisme?
C'est une question qui vient facilement, mais qui n'est pas si simple à répondre. Pour moi personnellement, le nudisme, c'est un peu le fait d'être passif, d'être nu, bien évidemment, au sein d'un endroit végétalisé, végétarisé. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment le fait d'être nu, et ça s'arrête là. Le naturisme, c'est le vivre nu. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être assis ou allongé, on le vit nu. Et nous, notre pratique sur le terrain, c'est justement de pouvoir bouger, de pouvoir travailler, même jardiner, faire de la cuisine, vivre naturellement comme on peut faire chez nous, avec cette belle différence, c'est de pouvoir être nu.
Et Dominique, il y a un mot à ajouter, une précision?
En fait, on n'a pas besoin. Enfin, quand on est naturiste, on n'a même pas besoin d'être nu. Nous, le naturisme, c'est le respect de la nature, le respect de soi-même. Et en plein hiver, on reste naturiste, même avec nos vêtements, quoi. Alors que le nudiste, lui, c'est plus ponctuel sur une plage l'été. Ouais. Il va pratiquer quelques heures, il va se rhabiller, puis il ne refera pas, quoi. C'est un peu ça, même si c'est un peu de la dialectique, mais bon.
Oui. Tu viens de parler de plage, justement. Où est-ce qu'on peut pratiquer le naturisme, on va dire, à l'échelle locale, là, dans le Maine-et-Loire, par exemple?
Dans le Maine-et-Loire, c'est logiquement interdit. Après, il y a des tolérances sur les bords de plage, sous réserve de ne pas être vu, de pas gêner. Donc, il y a une plage où c'est un peu pratiqué, il y a une légère tolérance du côté de la Dagonière, mais autrement, c'est tout. Sinon, autrement, c'est plutôt la Vendée, la Loire-Atlantique, où là, il y a vraiment des plages tolérées.
C'est les plages qui sont essentiellement le lieu de pratique, oui. et plus de liberté, du coup.
Pour les nudistes.
Oui.
Bien que les naturistes y aillent aussi, d'ailleurs. Mais...
Oui, les naturistes, sinon, c'est dans des lieux privés, voilà. Chez soi, comme ça.
Okay. Alors, il y a quelques... au sein de la région, par exemple, il y a quelques clubs qui n'ont pas de terrain. Donc, ils ont d'autres activités. Ils font de la sophrologie, ils vont faire du bowling, ils vont faire de la randonnée, enfin, des activités hors endroit clos, quoi. Et sinon, la majorité, on a tous des terrains.
Ok. Comment dire, Martine, toi, quand est-ce que depuis quand tu pratiques le naturisme? Voilà, j'arrive.
Depuis quand? Depuis que j'ai 20-21 ans.
C'est venu de toi-même?
Non, c'est pas venu de moi-même. Ce sont des amis qui nous ont poussés à pratiquer le naturisme en ne venant pas avec nous, mais en disant, allez découvrir, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, ma foi, on s'est lancé. Et on a tellement été enchantés que c'est devenu quelque chose de régulier et maintenant d'inconditionnel.
Est-ce que l'effet de groupe aussi, ça aide aussi à peut-être s'inclure dans le naturisme, tout simplement?
L'effet de groupe...
De se lancer à plusieurs, je veux dire.
Pas forcément. Je trouve que c'est vraiment une démarche tellement personnelle. Il faut y réfléchir, dans le sens où c'est se mettre face à soi-même, face à ses questionnements, face à son vieillissement, face à l'image qu'on peut avoir de soi. Et là, il faut être dans l'acceptation.
Pour toi aussi, Dominique, c'était une préparation avant de se lancer vraiment dans ce monde?
Moi, c'était un petit peu plus tard parce que, en fait, mes enfants ne voulaient pas entendre parler du naturisme. L'envie, moi, elle était déjà là. Et donc, à la fin de la quarantaine, les enfants ont commencé à ne plus venir en vacances. Et là, on s'est lancé dans le grand bain, quoi.
En couple, du coup?
En couple.
Ok. Et est-ce que vous... Donc, il y a 4... J'ai remarqué ça, il y a 4,7 millions de Français, enfin de personnes en France qui pratiquent le naturisme, dont 2,6 millions d'étrangers. Donc, ce qui fait de la France l'une des meilleures destinations naturistes.
La première
destination naturiste du monde.
Oui.
Pourquoi la France, autant, il y aurait autant de monde et pourquoi ça attire autant en France?
Eh ben, c'est assez simple à comprendre, hein. Quand on regarde notre carte de France, on est entouré de mer, déjà. Et puis, on est le berceau du naturisme aussi. Il y a des grands centres comme le CHM Montalivet, où la Fédération française a été créée. Il y a Agde, il y a Le 4. Enfin, c'est vraiment des endroits où il y a des grosses populations. Et même l'été, on se demande s'il y a encore des Hollandais en Hollande, parce qu'ils sont, un peu partout. Et bon, et donc les Français également, hein.
Ça, c'est une petite question que j'ai. Les Néerlandais, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, qu'ils sont très adeptes de la pratique du naturisme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a vraiment un peu toutes les nationalités finalement?
Oh, il y a toutes les nationalités. Hein. Il y a beaucoup d'Anglais, des Allemands,
des Belges,
des gens du Nord,
des Anglais. Ouais.
Oui. Donc, on remarque bien quand même que c'est les plages qui lancent au final les personnes à se lancer dans cette pratique, et après ça peut s'étendre chez soi, tout ça. Mais c'est vraiment les plages le point de départ.
C'est le côté très pratique en fait, parce que là on arrive, on se déshabille, on profite de la mer et on se rhabille et on repart, quoi.
On a déjà très peu de choses sur soi à ce moment-là.
Voilà, en plus
qu'on est habillé.
Mais par contre, souvent les gens qui commencent comme ça, ce que j'ai, un nudiste, c'est un naturiste en devenir. En fait, parce que s'il trouve vraiment son plaisir et qu'il trouve ça très agréable, il va se rapprocher d'associations ou de la fédération. Enfin, il va trouver quelque chose pour y aller, quoi.
Okay. Bon, je pense que pour éviter d'en dire trop sur les associations qu'on parlera dans une deuxième partie, on va pouvoir passer à la pause musicale avant d'en se lancer du coup dans l'explication de l'association Nathanjou et puis de parler un peu de la fédération.
Oui, et puis tout à l'heure, on pourra même évoquer les clichés, les préjugés qu'on essaie d'abattre, parce qu'on est loin de ce qu'on peut imaginer quand on garde nos vêtements. Maxence, le premier, en préparant cette interview, il a été surpris de découvrir certaines choses. On pourra, il y a peut-être un invité surprise qui va arriver entre temps aussi pour réagir à vos propos. On écoute Elle était là, la version Rework de Gavin Cerf sur le 100.5 FM, et on revient tous ensemble juste après.
Devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout. Et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup. Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi. Quand je guettais le facteur au tout début du mois. Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau. Quand je prenais le train corail comme on prend un radeau. Quand le café était froid sur les aires d'autoroute. Quand glissait sous mes doigts des kilomètres de doute. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur. Lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures. Quand je marchais dans la rue, la dégaine de travers. Quand j'étais reconnu, mais seulement par ma mère. Quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie. Quand le mec des coulisses me disait vous êtes qui. Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient vachement moins de ma guitare que des verres qui trinquaient. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. On vivait à deux dans une toute petite piole. Qu'on rêvait d'un peu mieux et puis d'un chat qui miaule. Quand je payais l'abonnement, coquillette tous les soirs. Quand les applaudissements ressemblaient à l'espoir. Quand j'étais dans l'impasse à faire que des conneries. Quand la vie fait ses crasses, quand mon père est parti. Quand j'ai eu besoin d'elle pour pouvoir m'envoler. Quand j'ai eu besoin d'elle, elle était à côté. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là.
Elle était là de Gauvin Cerce sur le 101.5 FM de Radio G.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Il fait très chaud en ce moment, Maxence, et c'est pas un problème pour nos deux invités de la soirée, Dominique et Martine, puisque ils ne portent pas de vêtements la plupart du temps, puisqu'on parle du naturisme avec l'association Natanjou, et puis l'événement phare qui arrive incessamment sous peu, Maxence.
C'est ça. Et tu fais bien de parler de l'association, parce qu'on va parler avec toi, Martine. Présente-nous rapidement l'association Natanjou.
Eh bien, l'association Natanjou est une association avec un siège social sur Angers. Ce qui nous permet, et ce n'est pas des moindres choses, c'est d'avoir une séance hebdomadaire dans une piscine pendant une heure et demie, régulièrement hors vacances scolaires. C'est un lieu de rendez-vous, même en plein hiver, et ça c'est intéressant parce qu'on peut pratiquer donc le naturisme dans cette piscine, et on est en général entre 25 et 30, voire un peu plus, donc tout va bien, et là, tout au long de l'année, finalement, on peut pratiquer.
Donc pour rappel, le Natanjou, donc c'est le club des naturistes du Maine-et-Loire.
De l'Anjou. Natanjou, les naturistes de l'Anjou.
Ah, parfait. Voilà. Et ça a été créé quand, l'association?
Alors ça, c'est une très belle question, je l'attendais. L'association a été créée, alors celle Natanjou a été créée en 1976. Et l'année prochaine, nous allons fêter nos 50 ans.
Il y a quelque chose de prévu pour l'anniversaire?
Ah oui. Alors on est en première phase d'élaboration. Nous avons... pour pratiquer le naturisme, un endroit dans le Maine-et-Loire, un petit lieu qui s'appelle Les Boinières, La Boinière, et c'est sur la commune de Cornillé-les-Caves, un endroit où nous avons quelques structures, dont une petite piscine, et ce qui nous permet de pratiquer, d'y aller pour poser sa toile de tente, sa caravane, et ça c'est génial. Et ça c'est tout au long de l'année.
Donc tu parles donc de ce terrain, de ce fameux terrain qui est propriété de l'association?
En partie.
Et donc, on en parlait hors antenne, c'est pas forcément... C'est une chance quand même d'avoir un terrain pour une association de naturistes.
C'est une très grande chance. Très grande chance, même si c'est petit, mais au moins ça permet d'exister, ça permet de se faire connaître, ça permet de faire découvrir le naturisme, chose que l'on va faire et que l'on fait là dans 15 jours, globalement. Donc, le 6 juillet, moi je donne rendez-vous à toutes les personnes qui sont désireuses à la fois de le découvrir... voir s'ils l'ont déjà fait, de le pratiquer et de vivre non pas en tant que nudiste mais en tant que naturiste pour vivre vraiment la nudité. L'adresse, je vais quand même le préciser, c'est au 483 chemin des Boissenières sur la commune de Cornillé-les-Caves. Nous proposerons lors de cette journée justement des activités, que ça soit la piscine puisqu'elle sera là, donc la piscine sera bien sûr ouverte, le tir à l'arc, pétanque, tennis de table, et puis il peut y avoir du volley, il peut y avoir d'autres choses, fléchettes, enfin bon, nous avons sur le terrain différentes possibilités d'activités, et le but c'est bien de vivre nu.
Il y aura de questions restauration, on se posait la question, tout ce qui est barbecue, tout ça, c'est un peu dangereux, non?
On met des tabliers.
Oui, non mais on fait attention comme tout à chacun, comme tout même touriste ou toute personne qui l'était sur son balcon ou sur sa terrasse va faire un barbecue. Voilà, c'est une question de bon sens là de se protéger. Hein.
Et l'association en elle-même, il y a combien d'adhérents actuellement?
Actuellement, nous sommes entre 140 et 150.
Pour donc c'est des, comment dire, des réunions quotidiennes, hebdomadaires?
Alors non, il n'y a pas de réunion. L'association compte 140-150 adhérents, avec possibilité de venir et à la piscine quand il y a des séances de piscine, soit sur le terrain quand la personne le désire.
Oui, le terrain en libre accès à longueur d'année.
Complètement en libre accès, dès l'instant où la personne est adhérente.
Et justement, comment on adhère à l'association?
Alors, le mieux, c'est de nous écrire. Alors, l'adresse mail, c'est natanjou49@gmail.com.
Ça, on aura l'occasion de le dire en info pratique à la fin de l'émission.
Et puis, on peut nous téléphoner. Et surtout, on peut nous rencontrer toute l'année en séance de piscine sur la piscine de la Roseraie.
Parfait. Eh ben, on va passer à Dominique. Dominique, donc toi, t'as un peu une double casquette. T'es un peu à la région, mais aussi membre national de la fédération, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Donc, au niveau régional, quel est ton rôle, toi?
Je suis président de la région pour la Fédération française de naturisme, président des Pays de la Loire, qui regroupe tous les départements d'Épi-la-Loire. Et dans Épi-la-Loire, nous avons 9 associations, 3 qui n'ont pas de terrain et toutes les autres ont un terrain. En Loire-Atlantique, par exemple, il y a 3 associations, dont 2 ont un terrain.
Et tu nous disais, juste pendant cette pause musicale, que les Pays de la Loire, c'est vraiment une région très dynamique au niveau national.
Tout à fait. Parce que nous, on n'a pas la Méditerranée, on n'a pas le soleil du Sud, même si en ce moment on l'a, mais on est la troisième région à vendre des licences, quoi. Et en même, nombre de licenciés.
Même si tous les départements ne touchent pas le littoral, comme tu dis, qui est un peu, pas essentiel, mais ça parle quand même beaucoup d'eau pour le naturisme.
Bah, en fait, c'est autour de Nantes, la plus grosse association qui est dans les Pays de la Loire. Nathan Joux est la deuxième.
D'accord.
Et nous, on n'a quand même pas la mer à côté. Hein. Mais par contre, on a une super piscine sur notre terrain.
Non, je voulais simplement demander lequel des départements avait le plus gros nombre d'adhérents, mais du coup, tu viens d'y répondre, Dominique.
Alors, pas tout à fait, parce que c'est Rhône-Alpes, en fait.
D'accord. Non, mais sur les Pays de la Loire.
À les Pays de la Loire. Oui, bah c'est le CGO à Nantes.
C'est le CGO à Nantes.
Mais de très très peu, hein, par rapport à Angers, bizarrement.
Donc, si jamais voilà, vous nous écoutez et que vous êtes tenté, rejoignez Nathan Joux, on pourrait faire basculer le chiffre du bon côté.
Alors, je voudrais préciser ce qui est intéressant, parce que là, on parle de licenciés, donc de licence à la Fédération française. Nous, on y est attachés en tant que club, en tant que personne, parce que pour nous, la fédération, elle est vraiment importante, comme une fédération de football, une fédération de tennis de table ou autre. La fédération, c'est un organisme qui défend nos droits aussi. Et c'est impensable de faire du naturisme sans être licencié. Comme ça serait impensable d'aller faire un match de foot ou de vouloir faire un match de foot sur un terrain sans être licencié. C'est une grande simplicité, en fait.
Et justement, tu parlais comme quoi c'est essentiel. Qu'est-ce que fait la fédération, Dominique, pour mettre en avant le naturisme en France ?
Ben, on fait beaucoup d'activités. Par exemple, dernièrement, depuis 2 ans, nous faisons le beach volley à Paris, à Pantin, en indoor. Donc, ça se passe au mois d'avril. Et toute la journée, on réserve cette salle. Et toute la journée, il y a des gens de toute la France, voire d'Europe. Et l'année dernière, il y a même des Canadiens qui viennent jouer au beach volley, naturiste, à Paris.
J'ai une vraie question pratique, je t'interromps Dominique, mais pour les hommes en tout cas, moi-même étant un homme, ça, il doit y avoir des petites contraintes. Est-ce qu'on prend des protections aussi pour parce qu'on est nu, on est d'accord ?
Oui.
Ouais.
Pour le beach volley ?
Oui.
Absolument pas.
D'accord.
Non, absolument
pas. Il n'y a pas de risque particulier non plus, non. Comme pour le barbecue. Non,
okay. Pas plus qu'au ping-pong.
Ok.
Non.
Ça marche.
On en parlait justement, on parle des sports. C'est quoi les sports qui marchent le plus sur les naturistes ? Qu'est-ce qu'ils pratiquent ?
Alors, sur les terrains, vu la moyenne d'âge et de toute façon par habitude, c'est essentiellement la pétanque. Après, il y a beaucoup de tennis de table. Ça peut être du molky, ça peut être du frisbee, enfin...
Tir à l'arc.
Oui, il y a beaucoup de tir à l'arc aussi sur nos terrains. Ouais. Voilà. Et après, sur les plages, bah, ça va être plus le beach volley, enfin, les choses comme ça, quoi.
Et quand tu nous as contacté, Martine, tu nous as dit comme quoi il y avait l'AG de la fédération qui avait lieu, c'est ça ? Qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on en tire de cette AG ?
Je te laisse répondre.
L'Assemblée générale. C'est
ça. Moi, j'étais partie prenante puisque secrétaire général. Donc, moi, j'étais pas spectateur de cette AG, mais plutôt
acteur.
Et donc, ça s'est très très bien passé. On a tenu à aller à Agde. Parce que c'était aussi quand même là que les choses ont démarré pour la Fédération Internationale. Même si depuis, il y a eu des choses qui ont un peu dévié sur cette... Mais nous étions à Hague, chez Oltra. Et chez Oltra, c'est un camping familial où tout se passe bien. Et donc, on sépare vraiment le village de Hague, qu'on appelle le Cap d'Hague, de chez Oltra.
Bien différencier les deux.
Oui, okay. Tout à fait.
Donc en France, ouais, s'il y aura 3 grands lieux à retenir... où il y a vraiment une grosse mobilisation naturiste, c'est ce lieu-là. Et après,
c'est des très très grands campings, oui. Hein, c'est des entités commerciales. Ah, oui. Et moi, je veux quand même souligner un truc, c'est que dans les Pays de la Loire, nous avons un seul centre de vacances qui ne faisait pas partie de la fédération. Et depuis la semaine dernière, il a rejoint la fédération. Je me suis déplacé l'année dernière. C'est au Colombier, dans le sud de la Vendée, et j'ai été signé le partenariat, l'agrément, pardon, la semaine dernière.
Donc une pratique, une fédération, des communautés qui sont en expansion, en tout cas qui se fédèrent de plus en plus et qui s'institutionnalisent. On le redit, hein, 4 millions, c'est ça, au total de naturistes par an en France.
4,7 millions.
Ouais. 4,7 millions.
Alors malheureusement, pas 4,7 millions de licenciés, c'est bien dommage. Sinon, on serait une très très grosse fédération et ça serait bien pour faire des activités. Mais par contre, oui, en pratique, ponctuels, et y compris les étrangers, oui, c'est 4 millions et quelque chose.
Oui, ouais, c'est comme les vidéos YouTube, hein. Il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais qui pas forcément qui s'abonnent. Donc, si vous consommez d'une certaine façon, si vous pratiquez, n'hésitez pas à rejoindre, ouais, à être licencié d'une communauté. Maxence,
bah, si on peut savoir, justement, si tu as le chiffre en tête du nombre de licenciés en France à la fédération.
C'est près de 13 000.
Ah oui, d'accord, oui, il y a de la marge.
Ah oui, oui.
Ah oui, il y a de la marge. Ok. Bon, ben,
bah, les gens, certains ne comprennent pas pourquoi payer pour faire du naturisme. Oui. En fait, on paye pas pour faire du naturisme. C'est un acte militant de prendre sa licence parce que nous, derrière, on défend auprès des pouvoirs publics pour des plages. Quand il y a une plage qui est en danger, puisqu'elle veut, souvent les municipalités veulent les supprimer. Bon, ben, bah, nous, on intervient. On a des avocats à payer. On a des salariés aussi pour faire les licences, pour faire le contact avec tous les licenciés et tous les clubs de France. Donc voilà, cet argent, elle sert à ça, quoi. Elle sert pas pour notre bien-être. Nous, on est tous des bénévoles, quoi.
Voilà, la question juridique, la question du regard aussi. Ça, c'est des choses dont on va pouvoir reparler. On a Bastien et Léa qui nous ont rejoint en cours de route. Léa a eu l'occasion, dans sa jeunesse, de pratiquer le naturisme. Elle va pouvoir nous en parler. Bastien a peut-être un regard aussi plus aiguisé sur le sujet. Maxence, on va alimenter tout ce débat dans quelques instants. Mais juste avant, on a retrouvé Nicolas Dufetel. Donc, on l'écoute. Je rappelle qu'il est adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers et qu'il présentait avec Jean-Jacques Garnier, le directeur des théâtres municipaux de la ville d'Angers, la semaine dernière, la saison 2025-2026 des Théma. On l'écoute sur le 101.5 FM.
Avec cette présentation de saison Théma 2025-2026, Angers prouve encore une fois que la culture, défendre la culture, c'est plus l'apanage des villes de gauche, par exemple. On soutient la culture énormément à Angers. Encore une fois, c'est prouvé avec la même des compagnies locales et puis une programmation riche et variée, accessible et populaire, monsieur Dufetel.
Je pense que la culture doit rassembler, et ça c'est essentiel, la gauche, la droite. Je pense que la culture doit transcender ses barrières, et avec trois piliers essentiels, la diversité, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, l'accessibilité, pour que tout le monde puisse aller voir des spectacles, et la liberté de création, avec des formes populaires, des formes plus exigeantes, travailler dans les quartiers. Et la réforme qu'on a fait au Théâtre Municipal d'Angers, c'est de réaffirmer l'importance de Chabrol, par exemple, qui est tourné vers le quartier de Belle-Beille, et puis de Chanzy, qui est aussi un endroit qui va accueillir des amateurs, des compagnies locales, que l'on renforce, puisque Angers a sanctuarisé son budget culture, il n'a pas été baissé, et en plus, on programme davantage de compagnies d'artistes locaux pour les aider à se produire dans une année, dans une période qui est compliquée localement, on le sait, nationalement, et puis internationalement. À Angers, on souhaite vraiment, en fait, que les émotions culturelles, pour toutes et tous, populaires, et mettre de l'humain au milieu de tout, puissent être une réponse à mieux vivre ensemble.
Une fierté, un coup de cœur sur un des spectacles qui peut être proposé, ou le travail des équipes aussi en interne, puisqu'on voit que on passe enfin au 21e siècle avec le compte Instagram et les réseaux sociaux.
En 2025, il est enfin temps qu'on passe au 21e siècle, évidemment, mais surtout il y a un travail très important qui est fait et qui s'appelle le service public. Le service public, c'est une locomotive, c'est un support qui lance des initiatives, qui s'agrège des mécènes, par exemple, parce que aussi il faut lancer des nouveaux modèles économiques. Je pense à la saison théâtrale, évidemment, des théâtres municipaux d'Angers. On le fait grâce à des mécènes, et ça c'est très important parce que ça nous donne un nouveau souffle et le public peut venir. Et quant au coup de cœur, écoutez, j'en ai plusieurs. Ce sont cette année des grandes actrices qui vont venir à Angers. Je pense à Fanny Ardant. Je pense à Carole Bouquet. Donc, véritablement, la chance que nous allons pouvoir de partager des grandes figures du théâtre, vues à la télé parfois, populaires, avec un nombre de spectateurs qui va croissant, puisqu'il y a 100 000 spectateurs dans les trois théâtres d'Angers municipaux, et un petit peu moins de 12 000 spécialement sur l'offre théâtrale. C'est vraiment quelque chose qui va en augmentant et qu'on va continuer à intensifier.
Merci Nicolas Dufetel.
Merci à vous, à bientôt.
Et cette année, notez bien que vous pouvez acheter vos billets pour la saison 25-26 en avant-première à partir du vendredi 27 juin, donc ce vendredi, avec des ventes en continu de 10h à 18h au guichet et en ligne. Et ensuite, ce sera du samedi 28 juin au samedi 5 juillet aux horaires habituels, 10h-12h, au téléphone, au guichet, sauf dimanche et lundi. Et ensuite, il faudra attendre le mardi 2 septembre très précisément pour que la billetterie rouvre, pour éviter tout simplement les éventuels bugs qu'il pourrait y avoir pendant l'été, puisque personne ne sera là pour gérer ça si jamais il y a un problème. Donc voilà, en avant-première, et ensuite ce sera le 2 septembre. On retourne à notre sujet de la soirée. On est toujours accompagné de Maxence et de nos invités, Martine, présidente de l'association Nathan Joue, et Dominique, alors Dominique avec toutes ses casquettes, membre de l'association bien évidemment, ex-président de Nathan Joue, mais aussi président de la fédération à l'échelle régionale, voilà, et secrétaire général à l'échelle nationale. Exactement. On parle du naturisme, bien évidemment, tout à l'heure on faisait la distinction avec le nudisme, et Maxence, on est accompagné de Bastien et de Léa, à qui tu vas pouvoir poser des questions sur leur regard et puis leurs éventuelles expériences autour de ça.
Bah, d'abord, on va quand même parler de la journée mondiale du naturisme, parce que c'est essentiel, mais juste avant, on va parler de la question morale. Tu parlais, Martine, c'est vraiment important l'engagement que tu prends quand tu signes pour apprendre ta licence, c'est que tu signes vraiment un engagement vraiment moral aussi.
Oui, tout à fait. Comme le fait d'appartenir à la fédération en tant qu'entité naturiste, quelle qu'elle soit, que ce soit un club ou un centre. Ce qui est important, c'est cet engagement. C'est-à-dire que quand je suis naturiste, je veux le devenir, je prends ma licence, ça veut dire que j'ai d'abord et avant tout le respect de moi-même, le respect de l'autre. Vraiment, dans son entité complète, physiquement et morale. Je le respecte, et bien sûr, je respecte la nature, et je fais attention à la nature. C'est pas qu'une carte. C'est une démarche individuelle, qui peut être aussi collective, mais c'est vraiment très, très important de partir avec ces bases-là. Et ça sépare bien les choses. Il y a pas besoin d'en dire plus. S'il y en a qui recherchent autre chose, faut pas qu'ils viennent vers nous.
C'est pas du naturisme.
Voilà. Merci.
Eh ben, on a plein de questions à vous poser. Bastien, toi qui viens d'arriver, tu as plein de questions. Alors, vas-y, je te laisse la parole.
J'avais plutôt des questions un peu sociologiques et statistiques. C'est aujourd'hui, c'est quoi votre moyenne d'âge des adhérents de la fédération?
De la fédération.
Ouais.
La fédération, donc c'est un petit peu élevé. Hein. Par contre, si on prend les naturistes eux-mêmes,
ouais.
Non. Alors là, par contre, ça redescend allègrement, puisque dans les centres de vacances, il y a beaucoup de jeunes, des familles avec des enfants. Et effectivement, dans nos assos, ben, c'est normal, puisque en fait, nous, les gens, ils viennent le samedi, ils viennent le dimanche. Quand on a des enfants, ben, on les emmène au sport, on a le jardin à tondre, on a autre chose à faire que de venir passer la tondeuse à Nathan Joue, par exemple. Mais ces gens-là, on les retrouve plus tard, quoi. Mais globalement, la moyenne d'âge de la fédération, elle est un petit peu élevée,
ouais.
Sachant quand même qu'il y a quand même des... Je vois sur Paris... La moyenne d'âge est plutôt basse.
Ouais, c'était ma question suivante. C'était du coup, est-ce qu'il y a quand même un regain chez la jeunesse? Parce que je pense qu'il y a un côté assez cyclique où le naturisme peut être un petit peu mis de côté par certains temps et certains mœurs qui changent. Mmh. Et en même temps, revenir après sur le devant de la scène. Donc,
avec le dernier Ipsos qu'on a fait, là, on a été vraiment très très surpris. C'est qu'il y a plus de jeunes qui pratiquent en définitif ou qui ont une expérience naturiste. Que des anciens, en fait.
Ok.
Et ça, c'est nous, on a été très surpris par rapport à la dernière fois qu'on avait fait un sondage qui remontait quand même assez loin. Et c'est assez rassurant de voir ça, quoi.
Donc il y a une évolution et ça revient chez les jeunes.
Ouais. Oui.
Ok.
Et la question des enfants sur le regard. Donc vous, quand vous pratiquez avec plein d'autres naturistes, est-ce qu'il y a des enfants de vraiment jeune âge qui sont là?
Ah ben nous, on a vu des femmes enceintes arriver. Et le petit est devenu adhérent, et puis on l'a vu grandir jusqu'à 10, 15 ans, et voilà. Donc c'est tout sauf un problème, quoi. C'est-à-dire que nous, c'est naturisme naturel. Il n'y a pas de regard malsain, tout se passe parfaitement bien, et les enfants sont heureux comme tout, hein. Courir dans la nature nue, pour eux, c'est génial, quoi.
Parce qu'on a Léa qui a eu la chance de pratiquer le naturisme. Donc quand t'étais jeune, c'est ça, Léa?
C'est ça.
Et quel souvenir tu en retires?
Bah, des très bons souvenirs, c'était ça. Donc c'était à Bélésie, en Provence, au pied du Mont Ventoux. Donc c'était un village vacances naturiste. Et donc en fait c'était ça, c'était vraiment l'idée d'être on est en famille. C'est pas juste l'idée d'être nu, pour moi c'était juste des vacances normales. On allait à la piscine nue parce que là du coup la piscine c'était obligatoire. Mais sinon si j'avais pas envie d'être nu, bah je l'étais pas. Si j'avais envie voilà, et puis c'est quand même plus agréable quand il fait chaud. Il n'y avait vraiment pas de gêne ou ce côté malsain, parce que quand t'es enfant, il n'y a pas la puberté ni quoi. Enfin, j'avais pas du tout ce regard-là. Donc non, franchement, j'en ai que des bons souvenirs.
Je lève la main parce que d'un point de vue juridique, on parle beaucoup de consentement et tout. Là, on est sur une enfant. Alors, c'est les parents qui font le choix. Il n'y avait pas de... C'était pas imposé, c'est ce que nous dit Léa. Est-ce que... dans quel cadre on évolue à ce moment-là, Dominique, avec les enfants ?
Alors, si c'est un couple, ça pose aucun problème, puisque de toute façon, c'est eux qui décident pour leurs enfants. Par contre, si c'est un couple recomposé, puisqu'il y en a beaucoup maintenant, nous faut l'assentiment des deux parents. On ne veut pas justement se retrouver dans des situations qui pourraient être malsaines, et pour l'enfant et pour nous.
Délicate, oui.
Oui.
Donc les parents sont représentants légaux et peuvent largement accepter que l'enfant... Okay,
surtout dans des lieux clos comme ou les terrains de camping ou les associations comme les nôtres, il n'y a pas d'exhibition ou de quoi que ce soit. Quoi.
Bah, c'est une question.
Non, c'est pas une question, mais c'est plus une réaction parce que je pense qu'il y a aussi... On parle de ce côté se sentir à l'aise, le regard par rapport aux enfants et tout ça. Et je pense qu'en fait, il y a aussi une question de contexte. Dans le sens où si on se retrouve demain dans un endroit où tous les gens sont nus, en fait, on se sent presque mal à l'aise, nous, d'être habillés.
C'est tout à fait ça.
Mais je l'ai ressenti parce que ça a pu m'arriver quelques fois. Et en fait, c'est très contextuel, en fait, son rapport à la nudité. Et en fait, quand on est dans un endroit où tout le monde est comme ça, bah, en fait, on se sent mal à l'aise.
À mon sens, c'est ce qui fait la différence avec de l'exhibitionnisme.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Non, bah voilà, c'est tout.
Des remarques, Léa, peut-être, par rapport à... Parce que toi, c'est ce que tu as vécu enfant, mais tu serais aujourd'hui, Bastien, parler de choses cycliques, alors que ce soit en termes de mœurs et de société, mais aussi en termes d'évolution dans les âges. T'as la vingtaine, bientôt, ouais, c'est ça? Et tu te dis que pour la suite, peut-être que tu retournerais sur des pratiques comme ça.
Oui, moi, là, ça me dérangerait pas. C'est vrai que quand j'étais ado, je pense pas, parce que c'est le moment où le corps change. C'est pas le moment où on est le plus à l'aise avec notre corps. Je pense que c'est aussi pour ça que quand je suis arrivée à mes 9-10 ans, mes parents m'ont arrêté aussi d'y aller. Mais là, je pense que oui, moi, je serais prête à y retourner. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette idée de... Je l'associe plus aux vacances, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de problème avec ça.
C'est intéressant parce que ça veut justement dire qu'à l'adolescence, comme on n'accepte pas trop les changements à notre corps, Léa, en tout cas pour son exemple, a refusé de montrer son corps dans le cadre du naturisme. Okay. Donc ça veut bien dire... Enfin, ça montre que potentiellement le naturisme, le fait de cette pratique, permet d'accepter, Dominique.
Alors, par contre, Léa, moi, il y a une commission jeune à la fédération, donc je peux te mettre en contact pour rencontrer d'autres jeunes de ton âge et tu pourras aller pratiquer avec eux, faire des sorties, des choses comme ça.
Il est sur les 14 000 licenciés,
pour les gagner une de plus.
Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça, le naturisme, c'est aussi s'accepter, en fait, accepter de se montrer.
Vous savez, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'être dans une douche commune, puisque dans les grands centres de vacances, on peut se doucher à 8, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, et m'apercevoir au bout de la fin de ma douche que la personne qui était en face de moi, il manquait un sein ou il manquait un bras, quoi. Ça, on ne fait pas attention, quoi. C'est naturel, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr que chez les textiles, comme ça qu'on appelle les non-naturistes, eh bien...
C'est les moldus du monde...
voilà, c'est ça. Ça, prenez une personne obèse sur une plage textile, je vous garantis qu'elle va être regardée et elle va pas être à l'aise, alors que sur une plage naturiste, ça sera pas le cas.
On est tous à pied d'égalité.
Voilà.
Donc c'est ça qui est difficile, vous pensez, pour les gens qui ont du mal à faire le pas, c'est de s'accepter soi-même ou d'accepter plutôt le regard des autres?
Il y a un peu des deux.
Et les personnes en elles-mêmes, elles pensent pas, elles, être, un peu dérangées par voir les gens nus aussi?
Il y en a certains qui disent, moi, me tenu, ça me dérange pas, mais voir les autres, ou être vu par les autres, ça me dérange. C'est un peu la problématique, mais en fait, c'est ce que j'ai souvent, quand on démarre le naturisme, c'est un petit peu de stress qui dure quelques minutes. Derrière, c'est une vie de bonheur, quoi.
Pour moi, la plus grande difficulté, c'est de s'accepter soi-même. Et en fait, c'est là où on n'est pas du tout gentil avec soi-même. On est même très, très dur. On a un regard d'exigence. Si on commence à faire du naturisme, on est dans l'acceptation du changement de son corps, du changement de la personne. Et forcément, si on s'accepte, on accepte l'autre avec toutes ses différences, avec ses handicaps, quels qu'ils soient. Et je pense que justement, ça a tout son sens, là, le naturisme.
Alors je pose la question à Maxence qui découvre un peu le sujet au travers de cette émission. C'est l'occasion. T'as beaucoup découvert de culture. Là, c'est une autre forme de culture. Toi, ton regard du coup sur la pratique du naturisme.
Bah moi, je trouve ça très bien tout ce qui est chacun fait un peu ce qu'il veut quoi. Après, c'est vrai que moi je trouve ça dommage que ce soit interdit totalement pour les gens qui ont envie de pratiquer ce qu'ils veulent. Je trouve ça dommage, mais après c'est vrai que il y a tout ce cadre un peu de respect des autres et justement de respect envers les naturistes. Je trouve que si c'était pas forcément interdit, il y aurait peut-être moins de respect. Ça fait peut-être même les mettre en danger et encore moins encourager les gens à pratiquer. Mais je trouve ça top qu'il y ait des initiatives comme ça qui permettent aux gens de vivre librement, justement.
Voilà, l'acceptation dans les différences aussi. Alors, on a plein de réactions, on va pas pouvoir prendre tout le monde, on va si, Bastien, tu levais la main, une réaction peut-être?
Ouais, j'avais quelques questions, vous parliez justement de l'acceptation de soi. Il y a des gens qui le vivent vraiment comme une thérapie pour,
oui, tout à fait.
Ouais,
tout à fait.
Vous le ressentez, vous, en termes de vos adhérents, des gens qui n'avaient peut-être jamais pratiqué? Alors, qui en fait vraiment font un changement par rapport à leur corps.
On a des personnes en situation de handicap, ouais, au sein de l'association. On voit surtout quand on va dans les grands centres ou même dans des centres moyens, c'est pas ça l'importance, mais dans des centres où on a l'occasion de découvrir et de pouvoir échanger avec d'autres personnes, on voit beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment des femmes. Mmh. Des femmes avec des mutilations suite à des chirurgies, et ces femmes-là, elles sont on les sent tellement bien dans leur corps parce qu'elles peuvent justement vivre au mieux ce handicap.
Et d'ailleurs, au niveau de la fédération, on a créé une commission Handinat.
Voilà. Ok. Ah oui, c'est donc très spécifique.
Donc, par exemple, on a une personne handicapée de notre région qui est malvoyant. Mm-hmm. Il n'est pas aveugle, mais très très malvoyant. Et avec lui, on arrive à faire. On joue à la pétanque. Il a des boules blanches. On le dirige. Il fait du bowling. Et voilà. Et
du vélo.
Et quand on fait des grandes réunions, ils viennent, ils ont un stand et ils ont des différents handicaps et ils nous font des, par exemple, marcher, rouler sur un fauteuil, mettre des lunettes, on se met à leur place et on voit ce que eux ils voient, ou ce qu'ils voient pas du moins. Et donc, voilà. Ça fait partie des choses que la fédération fait.
Ok. Allez, une dernière toute petite réaction de Léa, par rapport à ce qu'on évoque et tout. Ça te rappelle des choses? Ça fait écho à ce que toi tu as pu vivre là dans tes souvenirs?
Oui, oui, l'idée un peu d'acceptation de soi. C'est vrai que moi, du coup, j'avais pas forcément ce niveau-là à 6-7 ans, mais c'est vrai que pour en avoir parlé avec ma mère qui est pas dans ces pratiques-là, c'était un peu dur au début, mais en fait, tout le monde, quand on est dans un village vacances comme ça, tout le monde est tout nu, donc il y a pas de gêne à avoir ni quoi, donc c'est vrai que des bons souvenirs.
En tout cas, un sujet qui fait parler. On pourra en débattre encore pendant des heures, j'ai l'impression. On aura encore un tout petit peu de temps en fin d'émission pour redonner au moins les infos pratiques concernant les temps forts qu'on a évoqués et puis l'association de Nathan Joux, bien évidemment. Avant tout ça, on se fait une petite pause. Voilà, on aime bien la culture ici dans cette émission. Donc, on va s'intéresser à des artistes et des groupes locaux avec Jade.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Bonjour à tous. Alors, pendant ma semaine de stage, je me suis intéressée à trois artistes angevins et j'ai écrit une chronique pour vous les présenter. On commence tout de suite avec Zenzile. Zenzile, originaire d'Angers, est un groupe de dub français. Créé en 1995, il y a 5 membres, un bassiste, batteur, guitariste, saxophoniste et claviériste. Chacun provenant de toutes scènes musicales différentes, ils ont su s'imposer de la scène angevine jusqu'à l'étranger. Leur tournée en 2006 leur ont permis de se faire connaître encore plus et de sortir donc leur 11e album l'année d'après. Nous passons à Oli.
Oyez, ça papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi ?
Oli, de son style très singulier, s'inscrit dans cette nouvelle vague de rappeurs émergents. Son univers bien propre à lui permet donc de se démarquer des autres grâce à ses instrumentales planantes et même quelquefois entraînantes. Son titre phare, Malade, lui a permis de gagner en notoriété auprès d'un plus large public et continue encore aujourd'hui d'évoluer. Et enfin pour finir, Daria. Actif depuis 2002, le groupe de rock Daria fait ses premiers pas aux côtés des Angevins. Les frères Belin, à la tête du groupe, sont très vite rejoints par Arnaud Ligonnière, le batteur, et Pierre-Yves Souris, le bassiste. Après 7 ans d'absence, le groupe revient avec leur album Fall Note, sorti en décembre 2024. Ils reprennent les concerts et préparent leur tournée jusqu'en 2026. Pour les suivre sur Instagram, c'est Zenzile Music, Poski Loli et Daria Music. Merci à tous.
Merci à toi, Jade, pour cette chronique. Une autre chronique est prévue avec toi pour jeudi prochain. Hâte d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que cette fois-là, on ira voir des écrivains, c'est ça, ou des événements?
Oui, c'est ça. J'avais prévu de parler de trois festivals locaux qui vont arriver très prochainement.
Et ben voilà, on en parle. Plus d'informations jeudi dans cette émission. Cette émission qui touche à sa fin. Voilà, ça y est, Topette, c'est bientôt fini. On est sur la toute fin. En plus, c'est la dernière semaine de la saison. On était, je le rappelle, hier avec la ville d'Angers pour parler de Tempo Rive. Demain, nous sommes avec le Prévestival pour parler de la prévention des risques autour de l'utilisation, de la pratique des jeux vidéo. Alors, les effets bénéfiques comme les effets un peu moins bénéfiques. Comment se prévenir de tout ça? Tu dis, Maxence?
C'est demain, ça.
Oui, c'est demain. Mmh. C'est demain. Et jeudi, nous sommes avec Jean-Jacques Garnier, le directeur des théâtres municipaux de la ville d'Angers, pour parler de la saison 2025-2026. Et ce soir, mais avec qui étions-nous, Maxence?
On était avec Martine Perrault, enfin on est toujours, jusqu'à 19h, et Dominique Bléré.
C'est ça.
Donc voilà, on va rappeler les infos pratiques. Donc pour Nathan Joux, on peut vous retrouver sur natanjoux.org.
Tout à fait.
Et sur l'adresse mail natanjoux49@gmail.com.
Oui, avec un numéro de téléphone, et c'est pas mal aussi. C'est le 06 83 92 85 06.
Et le terrain, il est
sur la commune de Cornillé-les-Caves, au 483 chemin des Boissenières.
On a tout dit sur Nathan Joux?
Quasiment.
Juste une petite précision. Les gens qui aimeraient venir découvrir le naturisme, je précise l'horaire, 11h-19h. Ce qui serait bien, c'est de prendre une petite serviette par question d'hygiène. Le naturisme est quelqu'un de très propre, et quand on s'assoit pas les fesses n'importe où. Donc avoir une petite serviette, c'est génial, et parce que on se préserve soi-même, mais on préserve les autres.
Voilà. Et
c'est le 6 juillet 2025.
Au terrain.
Sur le terrain.
À Cornillé-les-Caves.
Bienvenue à tous.
Voilà, Dominique, peut-être le mot de la fin sur les licenciés, pour les personnes qui sont déjà dans la pratique du naturisme, qui ont déjà peut-être rejoint une association, bah non, justement, qui sont pas encore licenciés.
Là, ce que je peux dire, c'est qu'on va ouvrir un grand chantier l'année prochaine, on a déjà commencé d'ailleurs, pour les femmes. C'est-à-dire accueillir les femmes avec d'autres femmes, parce que souvent les femmes hésitent, et là le groupe est parti, il y a 8 femmes qui se sont réunies, et elles vont créer des flyers, elles vont ouvrir un espace sur notre site internet, et pour répondre aux éventuelles questions, qui est mieux qu'une femme pour répondre à une autre femme. Voilà, donc là c'est le gros chantier pour fin 2025 et toute l'année 2026.
Et ben voilà, le chantier, Martine, le mot de la fin, vas-y, je t'en prie.
Le mot de la fin, pour donner vraiment du sens à notre démarche philosophique et physique, eh bien, en octobre, on fera la marche d'automne reliée avec Octobre Rose.
Voilà, les marches, les randonnées, c'est comme ça qu'elles s'appellent,
pour
enfin pour les randonnées.
On n'est pas tout en randonnée parce qu'il faut trouver les espaces pour, les chemins, enfin, il faut faire quand même attention, on n'est pas dans l'exhibition, hein, mais dans le respect. Donc, pour l'instant, on parle de randonnée.
Voilà, a priori, les personnes, les naturistes ne sont pas vus des textiles. Ce sont vraiment que les naturistes qui ont consenti à voir d'autres personnes pratiquant le naturisme. Et ça, c'est important de le rappeler. Pour briser tous les clichés, on n'est pas dans l'exhibitionnisme.
Tout à fait. Bah,
lors des randonnées, les gens se promènent avec des petites jupettes avec des scratchs. Oui. Et quand ils voient du monde arriver, hop, ils passent la petite jupette.
Ça me fait penser à nu et culotté, ça, sur
France 5. Oui, c'est tout à fait ça.
Voilà, qui sont peut-être naturistes par ailleurs. On leur posera la question.
Ils sont rentrés en contact avec la fédération.
Et ben voilà, justement, la fédération. Alors, Dominique Bléré, toi, tu es président de la région et secrétaire principale de la Fédération française de naturisme. Tu étais avec nous ce soir. Martine Perrault, présidente de Nathan Joux, l'association naturiste. En Anjou, on se dit à l'année prochaine, du coup.
C'est
le rendez-vous annuel. Voilà,
pas de problème.
De Topette. Prenez soin de vous. À l'année prochaine pour vous. À demain pour vous, auditeurs, auditrices de Topette. Et bah, Topette, on se quitte avec un petit peu de musique western, puisqu'on vous rappelle que le festival Thomas Ranch, c'est ce week-end, 27, 28 et 29 juin, à Contigné. Là, le but, c'est d'être habillé. Donc, je pense pas qu'il y aura de naturisme, puisqu'on va justement enfiler des chapeaux et mettre des habits de cowboy et de cowgirl, avec tout un tas de voitures et d'éléments qui rappellent la culture américaine. Donc c'est bon côté, voilà, elle est pas morte la culture américaine, ça fait encore rêver parfois. On se quitte, à demain, prenez soin de vous et Topette.
Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.